France Musique. C'est l'été sur France Musique. Femme pionnière, Elsa Fattorino.
A woman must have money and a room of her own.
Et c'est cette nature qui m'a beaucoup porté des choses.
J'aime dire que je suis compositeur au sens de métier.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à bord de l'émission Femmes pionnières. J'espère que vous serez du voyage et que vous serez nombreux avec moi tout au long de l'été pour une traversée épique, homérique, des rives de l'Antiquité au mélisme de notre siècle. On sait que l'historiographie a négligé les compositrices. Ici, elles auront toute leur place, vous l'aurez compris, à travers les âges et les continents. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux premières d'entre elles, celles par qui tout a commencé. Il était une fois... Sappho de Mytilène.
Thank you.
L'ensemble Melpomen interprétait la musique de Sappho avec la soprano espagnole Ariana Saval et le ténor Giovanni Contarini, qui était également à la sitar. On doit cette musique à Konrad Steinmann, spécialiste de l'holos, cet instrument à vent de l'Antiquité. Konrad Steinmann, qui se décrit comme un musicien archéologue, a réalisé une reconstitution très rigoureuse de ce que devaient être les musiques de Sappho et de ses contemporains, puisqu'il n'en demeure aucune trace écrite. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'accompagnait à la lyre. Si la poésie de Sappho nous est parvenue principalement à l'état de fragments, sa musique, elle, est tombée dans les limbes de l'oubli. Ses poèmes chantent la beauté de la femme et de l'amour. Personne n'a peint avec plus de violence, plus de vérité, le frisson du désir, écrivait l'helléniste Yves Battistini.
Celui-là me paraît être l'égal des dieux. L'homme qui, assis en face de toi, de tout près écoute ta voix si douce. Et ce rire enchanteur qui, je le jure, a fait fondre mon cœur dans ma poitrine. Car dès que je t'aperçois un instant, il ne m'est plus possible d'articuler une parole. Mais ma langue se brise. Et sous ma peau, soudain, se glisse un feu subtil. Mes yeux sont sans regard, mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle de mon corps. Un frisson me saisit toute. Je deviens plus verte que l'herbe. Et peu s'en faut, je me sens mourir.
La comédienne Sylvia Monfort récitait le poème « Ode à l'aimé » de Sappho, enregistré en 1957. Sappho, cette poétesse grecque de l'Antiquité que Platon nommait la dixième muse. Sappho de Mytilène, à ne pas confondre avec le bleu de Méthylène, pareil à celui de la mer Égée qui frappe les côtes de Luzerne dorée, de l'île volcanique et fertile de Lesbos, où naquit la poétesse, 600 ans avant notre ère. Avant Euripide, avant Sophocle, Socrate et Platon, avant l'avènement de la démocratie athénienne. Les cités de l'île de Lesbos comptent parmi les plus civilisées de cette période de l'Antiquité. L'île est prospère, peuplée de chênes et battue par les vents. Un vent de liberté dans le mot Sappho. Sappho, un nom que l'on murmure depuis 2600 ans. Plus proche de nous, la compositrice Angélique Ionatos a mis ses mots en musique. Nena Venezzanou les a chantés. L'enregistrement a été récompensé par le Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
Φέρεις εγώ, φέρεις εγώ. καλυστός φέρεις αυτή μάταιρ υπέρα.
Une musique envoûtante que l'on doit à la compositrice Angélique Ionato, soutenue par la voix de Nena Venezzanu. Nous entendions les vers de Sappho, source éternelle d'inspiration. De Sappho, on sait peu de choses. Par exemple, qu'elle appartenait à une caste supérieure, oisive et éduquée. Que son père est mort au combat lorsqu'elle était enfant. Qu'elle a été contrainte à l'exil en Sicile avant de revenir sur ses terres de Lesbos où elle a fondé son école pour jeunes filles. Elle leur enseigne la poésie, la musique, le chant, la danse, l'art des bonnes manières. Il se peut qu'elle les ait aimées. Dans un de ses vers, elle décrit une chevelure plus dorée que torche qui flamboie. Son apparence, à elle, nous échappe. Selon Théodore, c'était une petite femme brune vive. Ovide l'a dit petite et noire. Alcée, qui en était amoureux, parle d'une pure Sappho, aux tresses de violette, au sourire de miel. Alors tenons-nous-en au mystère et restons sur les rives de la mer Égée avec une compositrice du 7e art, Eleni Karaindrou. Et si son nom ne vous dit rien pour l'instant, vous reconnaîtrez peut-être sa musique. Rappelez-vous, les paysages de Salonique et le visage d'un homme qui se détache sur un jour d'été qu'il revit au crépuscule de sa vie. Cet homme, c'est Bruno Gantz dans le film « L'éternité et un jour » de Théo Angelopoulos. La pianiste et compositrice grecque Eleni Karaindrou a signé la musique de ce film « Palme d'or canoise » de l'année 1987. Et elle a reçu le prix Fellini en 1992 pour l'ensemble de son œuvre. Sans transition, direction le Moyen-Âge. Nous sommes en Allemagne, dans la verdoyante vallée du Rhin, non loin de la Lorelei, ce rocher qui culmine sur le fleuve et qui porte aussi le nom d'une nyx semblable aux sirènes de la mythologie grecque qui attire les navigateurs par ses chants jusqu'à les faire périr. L'air tremble de flammes et de prières comme dans un poème d'Apollinaire.
Thank you.
une suite ancienne signée Hildegard von Bingen. Elle est interprétée par le clarinettiste Martin Fröst, l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm et le chœur de filles Adolf Frédéric.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fotorino.
Abbesse du Moyen-Âge, peintre, théologienne, compositrice, Hildegard suscite un engouement depuis les années 90 à la faveur des mouvements féministes, mais aussi de l'engouement pour la spiritualité, la naturopathie ou encore les énergies. Car Hildegard von Bingen était aussi érudite dans le domaine de la botanique et des médecines douces. Son grand œuvre, le drame liturgique Ordo Virtutum, démontre la maîtrise de l'écriture et l'originalité du style hildegardien. Grands intervalles, ambitus très large, inventivité dans le traitement mélodique. Dans cet ouvrage, le diable et les vertus se livrent un combat acharné pour l'âme humaine. Nous en écoutons le final par l'ensemble Sequentia.
Thank you.
Les musiques d'Hildegard von Bingen étaient interprétées par l'ensemble Sequentia que dirigeait Barbara Thornton. Le premier extrait que nous entendions était le final de l'Ordo Virtutum. Ce drame liturgique se base sur les écrits des visions mystiques d'Hildegard qu'elle avait consignées avec la bénédiction papale. J'en profite pour vous dire que l'ensemble Sequentia était un ensemble pionnier dans la redécouverte de cette compositrice essentielle du Moyen-Âge. Revenons sur la longue existence d'Hildegard von Bingen qui a accompli des choses exceptionnelles pour une femme de cette époque-là. Elle voyage, elle prêche en public, elle devient une figure influente de son temps. Née en 1098, la petite Hildegard est confiée à l'âge de 8 ans à l'église comme c'était souvent le cas pour les cadets. Auprès des moniales du monastère de Dissebodenberg, elle apprend la géométrie, l'astronomie ou encore la musique qui étaient essentielles chez les bénédictins. L'enfant est douée de capacités exceptionnelles. Elle devient abbesse à 38 ans avant de fonder son propre monastère de femmes à Rupertsberg. Elle compose et n'hésite pas à se livrer à des mises en scène fastueuses. Les femmes seraient cheveux déliés, parées de voiles de soie blanche, ornées de couronnes. Une pratique inhabituelle et condamnée par l'Église. Mais pour Hildegard, la jeune fille ayant épousé le Christ doit de même se présenter à l'autel dans sa parure d'épousée. Bien maligne, Hildegard, qui se gardait de mettre en valeur ses talents et ingénieusement expliquait qu'il procédait de Dieu, elle-même n'étant qu'un simple médium. La science et l'érudition chez une femme jetaient aussitôt sur elle le discrédit. N'empêche, Hildegard était dotée d'un savoir encyclopédique qui réunissait la nature, l'alchimie, l'astronomie. Dans son cloître rhénan, elle écrit de la musique, prépare des élixirs avec des plantes, connaît l'emploi de la fougère ou de la mandragore, soigne les plaies et les ulcères. Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver dans les officines des chaussures en peau de blaireau contre les rhumatismes ou des tisanes suivant des prescriptions hildegardiennes.
Thank you.
Le Quatuor Aquilone, la pianiste Anne Le Bozec et la maîtrise de Radio France dirigée par Sophie Janin jouaient la musique de Lise Borel. Il s'agissait de la pièce Flores. Nous avons quitté le Moyen-Âge, mais pas tout à fait, avec l'œuvre de cette toute jeune compositrice française. Née en 1993, Lise Borel se passionne pour cette période de l'histoire. La pièce que nous venons d'entendre parle de l'édifice de la cathédrale de Florence. J'ai essayé, dit-elle, de retranscrire cette impression de hauteur, de célébration au travers de la musique en m'inspirant de l'esthétique du Moyen-Âge, sans pour autant la copier. Ce n'est pas tellement une réflexion sur le sens du texte, mais plutôt sur les effets vocaux du texte. Est-ce que cette superposition de voix va créer un effet sonore, une impression, une sensation ? Toute la pièce est construite comme un édifice. Tout comme Sainte Hildegarde, Lise Borel a plus d'une corde à son arc, puisqu'elle écrit aussi de la chanson française.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fotorino.
Direction Venise pour retrouver celle que l'on présente comme l'une des premières compositrices professionnelles, Barbara Strozzi. Nous sommes au XVIIe siècle, la puissance commerciale de la République de Venise est sur le déclin, mais rarement la Sérénissime aura été aussi florissante sur le plan artistique. Le 6 août 1619, Barbara Strozzi voit le jour. Sa mère est servante, son père est poète. Il s'agit de Giulio Strozzi, dont elle serait la fille illégitime, mais qui l'adopta, ce qui est assez alambiqué, je vous l'accorde. Il est librettiste et ne cesse d'encourager ses talents avant de la mettre entre les mains de Francesco Cavalli, l'un des plus éminents maîtres que compte la Sérénissime. Barbara Strozzi avait 18 ans quand le premier opéra vénitien a vu le jour en 1637. Elle n'en écrira pas, mais nous lègue une centaine d'œuvres, madrigaux, arias, cantates, motets. Et ces arias sont comme des opéras miniatures. Sa musique est extrêmement vivante, elle se fait le reflet des affects et des passions. Je vous propose de découvrir une succession d'arias par Emoque Barat et l'ensemble Il Pomodoro dans le sublime Lamento Lagrime Mie. Distingua pietà.
Oh,
La soprano hongroise Emeke Barát interprétait une succession d'arias de Barbara Strozzi. Elle était aux côtés de l'ensemble Il Pomodoro et de Francesco Corti. Rappelons que Barbara Strozzi ne réunit en son temps aucun des critères pour faire une carrière. De compositrice, elle n'est ni musicienne de cour, ni religieuse, ni fille de noble, mais elle ne manque ni de talent, ni de volonté pour parvenir à ses fins. Orpheline de son père, elle a, à l'âge de 32 ans, à charge 4 enfants et une mère âgée. La seule représentation qu'on possède de la compositrice est un tableau dont on suppose qu'elle est le modèle. La jeune femme qui a sur cette peinture tout d'une courtisane est représentée seins nus avec des fleurs dans les cheveux. On prêterait aux chanteuses de basse vertu. Après l'année 1664, hélas, nous perdons sa trace. On se quitte donc sur une énigme.
Oh!
Sublimissime Magdalena Kojena dans l'Eraclito Amoroso de Barbara Strozzi. Elle était accompagnée de Pierre Pitzel et Privat Musiqueux. Ainsi s'achève le premier épisode de l'émission Femmes Pionnières. Il me reste à présent à remercier toute l'équipe, Dorothée Goll à la production, Félix Levaché à la réalisation et Cédric Châtelus à la technique. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.